Matt. Christophe Ondelatte.
Voici une intrigante histoire de médecin légiste que je tire du livre du docteur Michel Sapanet, légiste à Poitiers, Les nouvelles chroniques d'un médecin légiste, disponible chez Pocket. L'histoire d'une jeune femme que l'on retrouve nue et morte dans la forêt. On croit naturellement à un meurtre sexuel, mais le légiste va proposer une autre hypothèse. C'est une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec le docteur Sapanet en personne. J'ai écrit ce récit avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Il fait nuit et je rentre d'un congrès. Un congrès international en anglais organisé en France. C'est rare. Sur le thème des histoires exceptionnelles de médecine légale. Et j'ai encore dans la tête l'une de ces histoires. Un gars qui s'est construit sa propre guillotine et qui l'a d'abord essayé sur des moutons avant de l'utiliser sur lui-même pour se suicider. Il est 1h du matin. Je roule depuis 5h. Je vais m'arrêter boire un énième café dans une station-service. J'ai à peine coupé le moteur que mon téléphone portable sonne. À cette heure-là, je n'ai aucun doute sur l'origine de l'appel.
Bonsoir, docteur. C'est la gendarmerie de Lussac-les-Châteaux à l'appareil. Je suis désolé de cet appel tardif, docteur, mais on a besoin de vous pour une affaire, disons, un peu particulière. Je vous passe le directeur d'enquête. Bonsoir, docteur. Bon, voilà. On a eu une disparition il y a 8 jours. Une jeune femme à la vie, disons... un peu agité, fan de bar et de boîte de nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Alors au début, bon, on s'est pas trop inquiété, quoi, parce que elle avait l'habitude de partir comme ça quelques jours. Et en général, on la retrouvait bien imbibée et plus ou moins amnésique. Mais là, on l'a retrouvée morte, hier soir. Complètement nue, en pleine nature. Bon, ça sent à plein nez l'agression sexuelle, hein. Elle a de drôles de lésions sur le pubis, vous verrez. On est sur la scène de crime, là, depuis un bon petit bout de temps. Alors, je sais que c'est une heure un peu tardive, mais il pleut. Et donc, on a posé une bâche. Si vous pouviez venir sans tarder...
Ah, là, tout de suite, ça va pas être facile. Hein. Je rentre d'un congrès. Je suis à 2 heures de route de Poitiers, là. Appelez mes confrères.
Non, docteur, non. C'est une histoire tordue, c'est ce genre de truc qui fait que on vous veut, vous.
Vous êtes flatteur. Mais bon, c'est pas raisonnable. J'ai 600 kilomètres dans les pattes, là. Pas ce soir.
Et si on gèle la scène de crime jusqu'à demain matin, ça vous va?
Ah! Vous tenez vraiment à m'avoir, moi, hein? Bon, ben, ok. Demain matin, mais pas avant 10h, hein. Le temps que je m'organise. Le lendemain matin, réveil en fanfare. Petit déjeuner en famille, ça j'y tiens. Et ensuite, je vais à l'hôpital pour récupérer mon équipe. On y va à 4. Sophie, ma secrétaire, l'externe en formation et le stagiaire juriste, deux beaux gosses que Sophie appelle Brad et Pete, et moi. Direction le fin fond de la Vienne. À un rond-point, on arrive à une route barrée par un gendarme. Bonjour. Je suis le docteur Sapanet, je suis le médecin légiste. Ah, docteur. On vous attendait. Bon, on a barré la route pour vous depuis hier soir. Au loin, je vois une longue file de voitures bleues à gyrophare. On est arrivé. Et il y a du beau monde, hein, signe que l'affaire est grave. La substitute du procureur est là, la juge d'instruction, sa greffière, des gendarmes du coin et des gendarmes de la brigade de recherche, et même le maire. Le directeur d'enquête me refait son topo de la veille. Bon, d'abord c'est bien elle, hein. On l'a identifiée grâce à ses papiers. La famille avait signalé sa disparition, ils avaient mis des affiches un peu partout. Bon voilà, c'est une fille de type européen, vous verrez, une trentaine d'années... Bon, c'est sexuel, hein, comme histoire, a priori. Et puis, vu l'endroit où on l'a retrouvée, Enfin, vous comprendrez, on a mis le gars qui l'a découvert en garde à vue. Vous comprendrez tout quand vous serez sur place. Bien. On approche, là, il va falloir descendre. Bon, on a posé une corde. Alors, tous ceux qui vont approcher le corps, bon, ben, vous vous équipez maintenant. Et les autres, vous pouvez rester sans protection, mais vous ferez que regarder. Hein. La substitute du procureur et mon stagiaire juriste se contenteront de regarder. Je me demande s'ils sont pas en train de se dragouiller, ces deux-là. Bref. En tout cas, Sophie et moi, nous nous mettons en tenue. Combinaison intégrale blanche, calot de protection sur la tête, des gants, un masque. Et nous quittons la route et nous nous engageons sur un talus qui descend d'abord en pente douce et puis de plus en plus raide. Et comme le terrain est moussu et qu'il a plu, c'est une vraie patinoire. La substitute du procureur doit regretter ses talons aiguilles. Et ça fait bien marrer les gendarmes. Et on arrive au fond d'un petit ravin. Bon, là, il y a un petit mur à descendre. On a installé un rappel, hein. Les gendarmes goguenards doivent descendre la substitute au harnais. Et nous voilà dans le lit d'un ruisseau. On passe un bosquet d'ifs et de buis gigantesques. Et on arrive devant la scène de crime. Le corps, nu, d'une blancheur absolue, comme crucifié sur un rocher noir. Un corps dans une position très frappante, très frappante. Ses jambes sont repliées sous elle. Le talon gauche est au contact du pubis et l'autre talon est sous sa fesse droite. Ses bras sont écartés, à l'horizontale. Elle a une chevelure rousse, flamboyante. Sa tête est rejetée en arrière et sa bouche et ses yeux sont grand ouverts. Et donc, sur le pubis, il y a une tache noire, en forme de cœur. Assez grande, hein, elle fait bien la surface de deux mains. Une tache avec des contours rouges. Il y a quelque chose dans le tableau de Goya dans cette image. Goya, le peintre des souffrances humaines. Ils le savent autour. J'ai besoin de solitude pour m'imprégner des lieux, de l'ambiance des alentours. Alors je marche le long du ruisseau, je regarde autour. D'après les gendarmes, c'est par là que la victime et son assassin sont arrivés. Je prends un premier cliché général, et partout il y a des indices. Les gendarmes ont posé des petits chevalets jaunes avec des numéros. Ici par exemple, une chaussure de femme. Je continue d'avancer vers le corps. Chevalet numéro 35, un sac à main ouvert et renversé.
Ah docteur, voilà ce qu'il y avait dans le sac. Avec la pluie, on a préféré le mettre sous scellé.
Une ordonnance, avec le cachet de la pharmacie, donc les médicaments ont été délivrés. Et aussi des plaquettes de médicaments. Et puis un petit carnet. Et des préservatifs, dont un emballage ouvert.
Et vous avez retrouvé la capote ?
Non. Non, on a tout fouillé, dans un rayon de 200 mètres, introuvable.
Sophie ? Sophie, vous pouvez recenser la liste des médicaments, s'il vous plaît ?
On vous a déjà préparé la liste, hein, docteur ? C'est une liste longue. Je suis en train de la lire, quand la voix du directeur d'enquête me fait sursauter.
Alors, docteur ? Son pubis ? Vous avez vu son pubis ?
Il a l'air de s'accrocher à son hypothèse de crime sexuel. Et donc je me penche, je regarde. Les grandes lèvres sont gonflées, et elles sont noires, elles aussi. Mais pas desséchées, plutôt humides et suintantes. Et ce que je vois surtout, ce sont des asticots. Ça grouille. Et vu la taille de ces asticots, ce corps est là depuis plusieurs jours. Mais je ne dis rien. Je garde tout ça pour moi. En médecine légale, il ne faut jamais parler trop vite.
Docteur, on a mis de côté quelques bouteilles. Des bouteilles pour l'apéro ?
Non, docteur, non.
Ce sont des bouteilles qu'on a retrouvées en remontant la piste. Donc on a deux bouteilles de tequila,
3 de gin et 5 bouteilles de vodka. Elles sont toutes vides. D'accord. Je me concentre à nouveau sur le corps. Il est couvert d'échymoses et d'hématomes, en fait. Il y en a sur les deux bras et sur les deux cuisses. Mais ça ne ressemble pas à des coups, ni à des traces de contention forcée, quelqu'un qu'on aurait maintenu de force. Et pas non plus de traces de strangulation, et pas de plaie. J'ai une idée, mais je ne la dis pas. Bon, alors résumons, docteur. Elle a été vue vivante la dernière fois, le 6 septembre, ok? On l'a retrouvée morte hier, 3 octobre, vers 17h. On est le 4 aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu une idée de la date du décès? Eh bien, ça va manquer de précision, hein. Il faudrait donner les asticots à un entomologiste qu'ils nous disent. Mais bon, je dirais un décès autour du 28 septembre. Ça vous laisse un petit choix, 27, 28 ou 29. Avant et après, j'y crois pas. Il est temps de passer à la suite. Avec Sophie, nous emballons la tête et les mains dans des sacs de papier Kraft pour ne rien perdre pendant les manipulations. Tiens, elle a les ongles cyanosés, très cyanosés. Allez, ok, on la soulève. On la pose sur un drap blanc, sur le ventre. Oh ! Tout le bas du dos est putréfié et bourré d'asticots. En revanche, aucune plaie, aucun hématome sur le dos et sur la nuque. Mais des griffures superficielles sur le dos, les fesses, les genoux, les jambes et les avant-bras. Le genre de griffures qu'on se fait dans des taillis. Sauf que là, toute nue dans des taillis, il y en a qui aiment ça sans doute, hein, se balader à poil dans la forêt. Tiens, j'ai une idée. Je la garde pour moi, mais j'ai une idée. Bon, je n'apprendrai plus rien sur place. Il est 14h, et avant de nous séparer, le chef d'enquête revient vers moi.
Docteur, je suppose qu'il faut attendre pour en savoir plus. Écoutez, je sais pas si c'est un crime sexuel. Ça peut le faire croire, hein. Ça peut l'être. Hein. Mais franchement, il n'y a rien de sûr. Hein. Et pour les certitudes, il va falloir attendre l'autopsie. Bon, d'accord. En attendant, je vais relâcher le promeneur qui a découvert le corps. Hein. Je vois pas l'intérêt qu'il avait à nous amener sur les lieux de son crime.
Le corps, rapatrié dans nos locaux, est entièrement passé au scanner. Et le voilà posé sur la table d'autopsie. J'examine les clichés. Rien d'anormal, aucune fracture. Et donc je passe à l'examen externe que j'ai déjà réalisé sur le terrain, mais une fois sur la table, à la lumière, des détails peuvent apparaître. Je regarde à nouveau la peau sur toute la surface. Ensuite je fais ce qu'on appelle des écouvillonnages sur les surfaces de prise. Je passe un grand coton-tige sur les endroits où l'agresseur a pu laisser des traces. Un violeur, en général, ça immobilise sa victime par les poignets, les bras, les chevilles, le cou. Il y a forcément de l'ADN. Ensuite, j'inspecte le dessous des ongles. Rien. La phase suivante consiste à rechercher des hématomes qui seraient invisibles sur la peau. Et là, j'ai décidé de faire un écorché complet. Bistouri, je vous prie. Je fais de grandes incisions sur tous les membres. Je glisse la lame de mon bistouri entre la graisse et le muscle, et je la décolle entièrement. Je ne trouve pas le moindre bleu sur la face profonde de la peau. La suite est plus classique. Bistouri, je fais une incision profonde du menton jusqu'au pubis. Au niveau de la tache sombre, la peau est dure comme du vieux cuir. Mais en profondeur, aucune trace de coup. Aucune. deux fois découpé les côtes, je retire un à un les organes, et notamment le foie et les poumons. Et ensuite, le cerveau. Et je les pèse. Tout est anormalement lourd. Et quand j'ouvre les poumons, il y a un œdème important, avec une mousse rosée dans les bronches. Et la vessie est pleine à craquer. Tout ça me conforte sur la piste d'une intoxication. Ce qui est, depuis le début, mon hypothèse silencieuse. À cause de la quantité de médicaments dans le sac, et à cause des bouteilles. Dans l'estomac, je ne retrouve qu'un tout petit peu de liquide gastrique, comme chez quelqu'un à jeun, avec tout de même d'étranges petites feuilles. Trois feuilles arrondies, des feuilles de buis, et d'autres petites feuilles, plus étroites, plus longues, plates et luisantes. Et aussi des petites boules noires. Et ensuite j'ouvre l'œsophage sur toute sa longueur, et j'y trouve les mêmes feuilles. Bizarre. Bon, allez Marie, c'est à vous. Vous avez vu la technique plusieurs fois. Hein. Vous allez extraire les organes génitaux. Je vous laisse faire. Allez-y. Son bistouri part de l'arrière de l'anus. Il fait le tour des grandes lèvres. Et là, il ne reste plus qu'à extraire d'un seul mouvement tout l'appareil génital. Elle le pose sur la table de dissection. Et ensuite, elle fait des prélèvements. On cherche du sperme, bien sûr. Si elle a été violée, on aura donc l'ADN du violeur. Et enfin, coup d'œil du côté de l'utérus et des ovaires. Pas de grossesse en cours. Autopsie terminée. Et je n'ai aucune cause de la mort à proposer. Aucune. La journée a été rude. Quand j'arrive à la maison, les enfants sont déjà couchés. Je me sors une de mes terrines favorites, du cerf avec des fruits secs. Et je m'assoupis tout doucement devant le feu qui crépite dans la cheminée. Et je me réveille d'un coup en sursaut, couvert de sueur, avec dans la tête un flash. Je l'ai vu dans ce petit vallon, crucifié sur son rocher. Et les jours passent, et les gendarmes poursuivent leur enquête. Il reconstitue son itinéraire dans les jours qui précèdent sa disparition. Ils n'ont aucune piste. Et moi, j'ai repris mon activité ordinaire. Mais cette histoire me tracasse. Au point, d'ailleurs, que j'en fais des rêves étranges. Et des rêves à répétition. Toujours les mêmes. Je me revois enfant de cœur. Dans mon petit village, le jour de la fête des rameaux. Le curé est là, en soutane. Et moi, je tiens une branche de buis entre les dents. Et le curé se précipite vers moi, il me hurle quelque chose d'incompréhensible. Ma conscience me travaille. Et puis arrive ce qu'on appelle la toxicologie, c'est-à-dire les analyses de tous les liquides. Et elle n'est pas banale, hein. Bon, d'abord, le sang prélevé a coagulé, ce qui le rend inexploitable. Ensuite, les urines. Le toxicologue a trouvé de la carbipramine à très forte dose. Et ça, c'est le principe actif du médicament utilisé pour traiter l'anxiété et les troubles psychotiques. En revanche, il n'y a pas d'alcool. Et il n'y a pas de stupéfiant non plus. Je commence à comprendre ce qui est arrivé à cette gamine. À partir de là, c'est une autre histoire qui se dessine. Une autre histoire qu'un viol, une autre histoire qu'un meurtre. Elle est déprimée, elle est anxieuse, trop anxieuse. Et elle prend son médicament en grande quantité, en trop grande quantité. Et du coup, elle est perdue, elle est incapable de s'orienter, elle entre dans une errance sans fin. Et elle suit donc ce petit ruisseau. Au passage, elle sème ses chaussures et puis ses habits. Elle bataille avec les branchages. Et ensuite, elle glisse sur la mousse humide jusqu'à heurter ce gros rocher. Et elle meurt d'un surdosage de son médicament. Voilà mon hypothèse. Même s'il reste des interrogations. Quid des bouteilles d'alcool? Qui sont à elle, hein? On a retrouvé dessus ses empreintes. Disons qu'elle a peut-être passé quelques jours à boire dans ce petit vallon. L'alcool aussi est un anxiolytique. Et qu'après, elle a absorbé ses médicaments. Mais du coup, que viennent faire mes rêves là-dedans? Mes rêves de curé, qui me sautent dessus parce que j'ai une branche de buis dans la bouche. Et d'un coup, je me souviens de ce que le curé me dit. « Jette ça, petit malheureux. Tu vas t'empoisonner. » Et là, je me précipite vers mon bureau. J'ai un livre. J'ai un livre sur les plantes toxiques. Et ce livre me confirme que le buis est un poison. C'est un poison. Et l'if aussi est un poison. Et l'if correspond parfaitement aux petites feuilles étroites que j'ai identifiées dans son estomac et son œsophage. Et donc dans son délire, cette jeune fille a également mangé des végétaux hyper toxiques. Alors quant à savoir lesquels des toxiques végétaux ou médicaux l'ont tué, ça je ne sais pas. Ça restera une interrogation. En tout cas, c'est certain, elle n'a pas été assassinée. Elle n'a pas été non plus violée. Elle est morte empoisonnée au cours d'une crise de folie. En tout cas, depuis, mes rêves d'enfant de cœur ont disparu. Cette histoire, Michel Sapanet, je l'ai tirée de votre livre « Les nouvelles chroniques d'un médecin légiste » disponible chez Pocket. C'est typiquement l'affaire dont on se dit... Si vous n'êtes pas là, les gendarmes restent sur un meurtre sexuel, évidemment ne trouvent jamais de coupable, et donc ça reste un cold case, comme on dit, une affaire non résolue.
Oui, mais on imagine difficilement qu'ils ne fassent pas intervenir un légiste.
Ouais.
Donc à ce stade, actuellement, il y a peu de raisons que ça soit un cold case.
Il y a une frustration de ne pas être capable de dire c'est le buis, l'IF, ou ce sont les médicaments qui tuent.
Non, il y a... Le médecin légiste, dans son expertise, il sait que de temps en temps, il peut pas répondre. Donc, ce n'est pas frustrant. Il faut juste essayer d'avoir les arguments suffisants. Alors là, on a un médicament qui a dose toxique. On n'a pas poussé les investigations plus loin, mais on aurait pu demander effectivement une expertise toxicologique sur les produits qui sont toxiques dans le buis et dans l'IF.
C'est tout à fait faisable. Et là, vous seriez peut-être arrivé à déterminer.
Bah non, parce que enfin je pense que là on est dans l'association de toxiques, donc on est dans une problématique assez classique où on peut pas dire lequel des deux va avoir tué.
On trouve souvent des problématiques comme ça.
On a souvent des associations dans les suicides, on a beaucoup d'associations de médicaments, mais là je suis même pas c'est pas un suicide, hein.
Alors justement, qu'est-ce qui lui est arrivé, cette femme? Quelle idée vous vous faites? Après, ce sont des hypothèses, évidemment.
Bah, c'est une femme qui est mal dans sa peau.
Qui est psychotique, probablement.
Alors, vraisemblablement, qui a des épisodes, effectivement, de psychose, c'est-à-dire de perte de contact avec la réalité.
Soit schizophrène, soit maniaco-dépressif bipolaire.
Oui, ou... Enfin bon, alors là, du coup, on rentre dans la psychiatrie, c'est plus tellement mon domaine, c'est pour ça que je m'entoure de psychiatres.
Donc mais, une femme qui décolle du réel, en tout cas.
Voilà, elle décolle du réel par période, elle a une vie qui est assez agitée, elle a un mal-être général, et puis donc elle a une très forte consommation d'anxiolytiques, parce que je pense qu'il y a un support, du point de vue psychologique, une présence d'une anxiété majeure, qui peut conduire, effectivement, à des situations de désespoir, voire à des suicides.
Donc elle est là en forêt, elle y reste longtemps, a priori.
Ah oui, a priori, elle a dû y passer plusieurs jours, hein, d'après les enquêteurs. Et après, ça se comprend, parce que vu la quantité d'alcool et vu qu'on n'en trouve pas dans son sang, là, il y a une anomalie. Avec le nombre de bouteilles qu'il y a sur les lieux...
Parce qu'on est sûr qu'elle a bu.
On est sûr qu'elle a bu, mais elle a cuvé son alcool complètement. Et puis, l'alcool a un effet anxiolytique. C'est un excellent anxiolytique. C'est pour ça que beaucoup de gens boivent. pour faire passer leurs angoisses existentielles. Donc, à partir du moment où elle n'a plus d'alcool, elle reprend ses médicaments. Mais le problème, c'est que vous pouvez avoir une espèce d'acte compulsif, une immédiateté. Vous êtes tellement sous l'emprise de l'anxiété que vous voulez la faire céder, vous avalez trop de comprimés. Je pense que c'est vraisemblablement
ça. Ça les feuilles, probablement.
Alors, ça, après, on est dans des effets secondaires.
Elle n'a rien à manger, cette femme.
Non, elle n'a rien à manger. Donc, on est un peu... faut imaginer que c'est un peu le brouillard dans sa tête, hein, pour ne pas dire plus. C'est très confus, vraisemblablement une grosse confusion. Et dans ce comportement, on peut imaginer parfaitement qu'effectivement, elle avale des végétaux parce qu'elle a faim. Et manque de bol, c'est de l'if et du buis. C'est ce qu'il y a autour.
C'est la première fois, dans toutes les histoires que vous racontez, que je vous vois affecté par la scène de crime, au point que vous en faites un cauchemar la nuit. Jusque-là... Ça m'a toujours surpris, vous n'aviez jamais d'implication personnelle. On se disait, tiens, il a passé la journée face à un cadavre plein d'asticots, il rentre chez lui et il se passe rien, il tourne la page. Ce que je peux comprendre, puisque c'est votre vie depuis 1987. Donc depuis plus de 30 ans. Là, vous êtes affecté. Pourquoi là ?
Je suis pas certain que je sois affecté. J'ai mon cerveau qui a une interrogation.
Oui. Et donc vous couchez
avec l'interrogation. Qui ne comprend pas qu'est-ce que ces feuilles font dans l'œsophage et dans l'estomac.
Ouais.
Et puis les petites graines également, hein, qui sont finalement les baies de l'if.
Ouais.
La graine elle-même, puisque la partie rouge a disparu, elle a été digérée. Et je pense que mon cerveau va travailler inconsciemment. Et mon cerveau, en travaillant inconsciemment, va chercher des souvenirs. Et comme ça se passe pendant le sommeil, ça me génère des cauchemars avec la solution, en fait, en même temps. Mais solution que je ne comprends pas tout de suite.
Mais il n'y a pas d'affectation liée à la victime. C'est une jeune femme, jolie, semble-t-il. Il y a, malgré tout, la scène est terrible et en même temps, elle est érotique. Et donc, est-ce que la nature de la victime vient vous travailler ou
non,
pas ?
Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois vraiment que c'est cette association rameau, le buis, if, rameau, enfant de cœur, curé.
Crucifixion.
Et crucifixion, oui, tout à fait, tout à fait. Avec une image très forte, par contre. Hein.
Ouais.
Là, c'est pas tellement, c'est presque moins la victime qui m'interpelle que l'image. Parce que là, vous avez parlé de ce cadre autour de cette victime qui fait un peu une scène à la Goya.
Oui.
Mais à côté, plus loin, il y a le ruisseau, il y a un petit pont, et je me retrouve avec Monet. Et là, c'est assez fantastique. Et ces images-là...
Le paysage est par ailleurs magnifique.
Et là, c'est assez fantastique. C'est un peu comme les images qu'on peut avoir dans un film comme « Drowning by Numbers ». De Peter Greenaway. C'est l'histoire d'un légiste, enfin un coroner anglais qui finalement camoufle les crimes de trois femmes pour bénéficier de leur faveur sexuelle et qui finit noyé par elles parce qu'elles veulent se débarrasser du complice. Et dans ce film, il y a des images extraordinaires en couleur avec une espèce de petite musique répétitive. Et
vous les retrouvez là-dedans.
Et là, je retrouve ces images, ces contrastes, les couleurs flashy, très 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 puissantes. Voilà. Mais en même temps, il reste une interrogation. Et c'est cette interrogation qui me travaille et qui travaille mon cerveau inconsciemment. Puisque c'est même pas la solution, je la trouve même pas pendant que je suis réveillé, je la trouve
c'est
alors que je
dors. C'est le début de la solution.
Oui,
donc ça ouvre la porte de la solution.
Ça ouvre la porte et la porte finale, c'est brutalement avale pas ça, petit malheureux, tu vas t'empoisonner.
Ouais.
Qui était une image que j'avais oubliée de mon enfance. Hein. C'est alors là, j'étais loin.
C'est l'inconscient qui a recraché ça.
C'est l'inconscient qui a recraché ça.
Ouais.
Voilà. Et c'est là où vous voyez le travail du cerveau qui est absolument fantastique.
Ouais. Alors, le chef d'enquête, lui, il a son idée dès le départ. Et on sent bien que vous, dès la découverte de la scène de crime, malgré cet hématome au niveau du pubis, vous n'y croyez pas.
Non, parce que c'est pas un hématome. C'est une tache noire
qui
peut passer pour un hématome, mais qui tient en fait à l'association de la putréfaction, puisqu'elle est là depuis plusieurs jours, et de la déshydratation de la peau. Et c'est pour ça qu'elle est dure comme du cuir, du vieux cuir cartonné. Et ça, je l'identifie tout de suite comme n'étant pas un hématome. Et la région rouge autour, c'est pas non plus une trace de violence, c'est simplement la putréfaction qui se propage. Mmh. Et donc le diagnostic, moi je sais d'emblée que s'il y a eu quelque chose de sexuel, c'est pas des violences
c'est
extrêmes.
C'est pas évident, voilà.
Non, et c'est pas la représentation mentale que s'en est fait le directeur d'enquête, et c'est une agression sexuelle, parce que j'ai cette lésion, alors que c'est pas une lésion, c'est un phénomène de putréfaction.
Évidemment, le doute, vous l'avez aussi à la lecture de l'ordonnance. Ça, vous ne vous étalez pas là-dessus dans le livre, mais en fait, on comprend que c'est à ce moment-là que vous voyez que le médicament est un antipsychotique, et que voilà, à un moment donné, il y a un risque de surdose.
Oui, tout à fait. Alors après, faut toujours se méfier. Hein. C'est pas parce que vous trouvez des blisters une boîte de blisters de 20 comprimés qu'elle les a toutes mangées à ce moment-là. Ouais. Hein, faut surtout pas penser ça. Il y a des gens qui jettent pas ni leur bouteille vide, ni leur plaquette vide de médicaments. Donc, faut pas tirer de conclusions hâtives, mais il n'empêche qu'effectivement, c'est une série de petits indices qui viennent les uns avec les autres. C'est un cumul. Hein.
Ouais.
Alors, la première anomalie, c'est on trouve pas les gens de cet âge dans cette position nue dans la nature.
Ouais.
Ça, c'est évident. C'est le problème qu'on a à résoudre. Et derrière les informations, c'est la dispersion des objets qui, pour l'instant, vous l'enregistrez, vous n'en faites rien, vous gardez l'information. Les objets sont dispersés.
Mmh.
Bon. Et à la fin, on a un corps nu. Et puis, vous avez, les bouteilles sont dispersées. Et à la fin, j'ai quand même pas d'alcool. Et puis, j'ai ce pubis, oui, d'accord, mais non. S'il y a des étrangers dans le coin, c'est que les asticots. Donc, je suis pas... Progressivement, les indices s'accumulent. Et puis, la vessie pleine, alors ça peut paraître idiot, mais c'est pas une preuve de mort toxique. Mais ça s'explique par le mécanisme de la mort toxique. Quand vous avez une mort toxique, vous avez une défaillance d'abord du cerveau, et puis après, des organes les uns après les autres, mais les reins, pendant ce temps, continuent à fonctionner avant que vous mouriez. Et donc, la vessie continue à se remplir, sauf que comme il n'y a plus d'acte d'aller uriner puisque la personne est inconsciente, la vessie gonfle.
D'accord.
Et donc, il y a un moment, quand on a une vessie extrêmement dilatée, pleine, il faut se dire, ça peut être un toxique, mais... Ce n'est pas un argument de preuve, c'est un argument d'orientation. Et à ce moment-là, attention, qu'est-ce que j'ai à ma toxicologie? Ma toxicologie revient positive, bon, mais ça ne m'explique toujours pas. Alors, ça peut suffire, hein, le médicament en question était suffisant pour tuer, il faut être très clair. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fait mon diagnostic du buis et de l'IF, je ne peux pas dire lequel a été le plus mortel dans l'ensemble.
Pourquoi est-ce que, alors qu'on sent bien, à vous lire que, en gros, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure sur la scène de crime, vous êtes déjà sur l'hypothèse d'une intoxication et pas du tout sur l'hypothèse d'un crime sexuel. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien au directeur d'enquête qui, lui, reste tanké sur l'hypothèse d'un crime sexuel?
Parce que l'expérience m'a montré que quand on parle trop vite, si après on est démenti, il va falloir faire une volte-face et expliquer.
Ouais.
Et ça, c'est très compliqué, parce qu'il y a des fois...
Vous passez pour un charlot si vous faites ça, en fait.
On prend un gros risque, oui, bien sûr.
On se dit, il nous dit ça maintenant, et il nous aurait dit ça tout à l'heure.
Voilà, dans mes étudiants, un jour, j'ai un jeune légiste qui a dit, il venait à peine d'ouvrir le thorax, il dit « Ah, mais voilà, il y a une grosse anomalie cardiaque, et c'est la cause de la mort ».
Oui.
Bon. Et puis, après, il s'est retrouvé avec une deuxième cause de mort qui avait rien à voir. Donc, pour le même personne, c'était un peu embêtant. Donc, du coup, il m'a appelé en salle parce que là, il était embêté. Il avait annoncé aux enquêteurs que c'était une mort d'origine cardiaque. Et en fait, c'est simplement que le cœur, avec les battements, le cœur, c'est un muscle. Avec les battements, il frotte contre l'environnement. Et ces frottements vont transformer le muscle en surface pour faire un petit tissu fibreux. Alors, c'est très fréquent ça sur les cœurs. On a très fréquemment une plaque blanche qu'on appelle une plaque blanche nacrée qui est là et qui est simplement le témoignage du frottement. Mais quand vous l'avez pas vu, que vous l'avez pas analysé, que vous le savez pas, vous pouvez prendre ça pour une anomalie qui sera en rapport avec la mort. Donc, il vaut mieux pas dire. Au départ, garder ses impressions, surtout quand on va en contradiction avec les enquêteurs. Alors, ça m'est arrivé sur la scène de découverte de dire tout de suite, franco, c'est pas ça, c'est pas du tout votre hypothèse, voilà ce que c'est. C'est très difficile, hein. Très difficile, parce que derrière, faut assumer.
Les asticots. Oui. Alors là, c'est une autre science. On pourrait croire ça dans les séries télévisées, c'est l'expert médecin légiste est aussi celui qui va dire ah oui mais l'asticot fait telle taille donc le cadavre est là depuis 3 jours. En vérité, c'est une autre science qui n'est pas la vôtre, c'est l'entomologie. Vous avez un entomologiste spécialiste donc des asticots à Poitiers?
Non du tout. Il y a quelques laboratoires spécialisés en entomologie médico-légale en France.
Ouais.
Et donc on fait les prélèvements pour leur permettre de cultiver, enfin de mettre en culture ces fameux asticots qu'on a récupérés pour qu'ils déterminent de quel insecte ils proviennent. Et à partir de là, on est capable de vous dater la mort.
C'est-à-dire que spontanément, on ne reconnaît pas l'asticot?
Moi j'en suis tout à fait incapable, je dis c'est un asticot.
Et la taille de l'asticot est l'indicateur?
Plus il est gros, plus ça remonte à longtemps. Et si vous avez plusieurs populations, c'est encore plus vrai.
Et l'entomologiste sait dater finalement la mort à partir de la taille des asticots?
Non, il date la mort, alors c'est très compliqué parce que les insectes, il leur faut des températures en degrés et des jours.
Oui.
Et donc c'est le produit des deux. Qui est nécessaire pour chaque espèce pour obtenir l'adulte, la mouche. Mmh. Voilà. Et donc, plus il fait. Alors, eux, ils les mettent en culture quand ils les reçoivent, dans un laboratoire, dans une enceinte dont ils connaissent la température.
D'accord.
Voilà. Donc, ils voient au bout de combien de jours ils ont la mouche. Et après, vous vous servez des relevés de température de la météo sur les lieux de découverte pour savoir quelle était la température moyenne. Et donc, vous avez donc deux périodes, la période qui est parfaitement cadrée, où on connaît le nombre de jours et le nombre de degrés, et la période qui est incertaine, où il y a des jours, on ne sait pas lesquels, et les degrés, on les a à peu près. Voilà. Et il y a des tables qui leur permettent, connaissant pour chaque espèce le temps nécessaire au développement complet de la larve, jusqu'au stade adulte, il y a des tables qui permettent de faire un calcul à rebours et de vous donner une date de décès. Mais c'est fantastique de précision. Alors, la précision, elle est relative, évidemment, mais quand 2 ans après la mort, vous avez des entomologistes qui sont capables de vous dater la mort à 10-15 jours près, c'est quand même une performance splendide.
Quand vous arrivez sur la scène de crime, notamment dans cette histoire, vous dites « j'ai besoin de m'imprégner de la scène de crime ». Il y a évidemment là-dedans un côté Maigret, un côté Colombo, un côté… Il y a une part du romantisme de l'enquêteur, mais vous n'êtes pas enquêteur en vérité. C'est-à-dire qu'on comprend bien que le flic a besoin de s'imprégner de la scène de crime. Le médecin légiste, on se dit « tiens, est-ce que c'est pas un peu superfétatoire ?»
Non, c'est le principe des regards croisés. Croiser les regards, croisons nos regards. J'ai le regard de l'enquêteur, j'ai le regard du légiste. Je les croise et c'est de ce croisement que vont déboucher les conclusions les plus pertinentes. C'est pas un travail de solitaire, le travail de légiste.
Oui.
Ça l'a été, mais ça l'est plus du tout. Je vous l'ai déjà dit, il y a des fois on est la pièce essentielle, il y a des fois on sert pas à grand chose. Mais en tout cas, croiser les informations, c'est toujours très enrichissant. Après, il y a d'autres considérations très pratiques. Connaître la météo des jours précédents, c'est important parce que ça vous donne le degré de chaleur. Donc, est-ce que mes asticots vont se développer plus vite ou pas?
Ouais.
Savoir s'il a plu ou pas, ben, ça vous évite de vous embourber quand vous garez votre voiture. Ça peut paraître idiot, mais voilà, c'est utile.
Et là, vous avez vu les bosquets d'if et de buis?
Oui, je les ai vus. Oui.
Et vous les connaissiez?
Ah ben, je connais l'if et je connais le buis, oui.
Oui. Ah ben, je veux dire, vous me dites ça comme ça parce que vous êtes un gars de Poitou-Charentes qui chassait le week-end.
Mais il n'y a pas de. Là où je chasse, il y a quelques buis, mais il n'y a pas d'if. Mais quand vous allez dans les Pyrénées en montagne, vous avez des régions où vous trouvez des buis en quantité, des ifs en quantité. L'if, c'est finalement assez commun, hein, un peu partout. Après, c'est des connaissances générales acquises du fait de la curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux, donc je m'intéresse à plein de choses qui, des fois, ne servent à rien dans l'activité professionnelle et puis d'autres fois, sont extrêmement utiles.
La chasse, j'en parle comme ça, ça peut être anecdotique, mais vous êtes chasseur. Vous m'avez amené un jour à la chasse, je suis allé avec vous chasser. C'est vous qui, évidemment, qui découpez les bêtes.
Je suis pas le seul, hein. Je participe à la découpe avec cet esprit qui est le même que celui du légiste, puisque finalement, il y a une interrogation principale au terme de la chasse, c'est qui a tué l'animal.
Ah bon ?
Eh oui, parce que ça, c'est l'objet de grandes bagarres. Autant aux assises, personne ne veut avoir tué, autant à la chasse, alors là, c'est moi, je suis sûr, etc.
Et donc, vous vous retrouvez le dimanche,
Alors, le samedi ou le dimanche, ça dépend des week-ends, mais je me retrouve avec des équipes où leur principale préoccupation, c'est de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai tué ». Alors, quand il n'y a qu'une balle de tirée, ça va, mais...
Enfin, vous n'allez pas faire la chasse... balistique sur le fusil du gars qui a tiré.
Non, mais orientation du tir par rapport à quel endroit est sorti l'animal, est-ce qu'il était à droite ou à gauche de celui qui a tiré, etc. Après, les calibres, il y a différents calibres, hein. Il y en a qui tirent avec de la balle pour les fusils de chasse classiques, donc ouais. ça va vous faire un gros trou. Et puis après, vous avez toute une variété de calibres, mais qui vont laisser leurs traces. On a un orifice d'entrée, on peut avoir des orifices de sortie, on est capable de les différencier, mais ils sont très forts aussi, hein, mes collègues chasseurs. Donc ouais. Voilà. Et puis, il y a un moment, on a pu atteindre le gibier, mais ne pas l'avoir tué. Donc, lequel, ici, il a pris 3 balles, laquelle l'a tué.
Donc, vous tranchez les conflits des copains.
Oui, puis il y a des fois, c'est comme dans la médecine humaine, hein, c'est-à-dire il y a des fois, je ne suis pas capable de dire. Et en plus, on fait un examen vétérinaire, hein, puisque là aussi, il s'agit que la viande soit consommable. Donc, on va examiner les poumons, le cœur, la rate, le foie, les reins, de la même façon que chez l'homme.
Merci Michel Sapanet. Je rappelle le titre de ce livre dont j'ai extrait l'histoire d'aujourd'hui, Les nouvelles chroniques d'un médecin légiste disponible chez Pocket.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.